Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de l'émission, on va jouer à Action ou Vérité avec notre invité, le philosophe Manuel Cervera-Marzal, pour son essai Post-Vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, qui vient de paraître aux éditions du Bord de l'Eau. La post-vérité pourra-t-elle finalement s'avérer bénéfique à la démocratie? Nous lui poserons la question donc à partir de 12h55. Mais d'abord, une figure émergente du 9e art. Elle aura pris du temps à être connue, mais aussitôt reconnue, tant son roman graphique secoue les codes du genre. Le père de Maus, Art Spiegelman, dit d'elle qu'elle est l'une des plus grandes artistes de la bande dessinée. Plaisir d'accueillir jusqu'à midi et demi Émile Ferris, auteur de Moi ce que j'aime, c'est les monstres, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, lauréate du prix ACBD 2019, trois prix Eisner l'an passé, plus grand prix américain de la bande dessinée. Elle est en lice aujourd'hui pour le Fauve d'or du festival d'Angoulême. Émile Ferris est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Je ne suis pas un animal, je suis un être humain, extrait de Elephant Man de David Lynch. Et peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, qui sait? Bonjour Émile Ferris.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Xavier Combes.
Bonjour. Bonjour.
Émile Ferris, comment rester un monstre avec un tel succès, celui que vous connaissez depuis la sortie aux États-Unis et dans le monde entier aujourd'hui de votre roman graphique « Moi ce que j'aime, c'est les monstres ».
I think I am, no matter what. I don't think that's going to change.
Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je crois que ça ne pourra pas changer. Je resterai monstre. Monstre je suis, monstre je resterai.
I think Dracula has quite a reputation and yet maintains his
Dracula,
stance.
Dracula, malgré sa réputation,
as a monster,
reste un monstre. J'espère faire la même chose.
Even if I may be in a little nicer castle. Eventually.
Bien que mon château, à terme, puisse devenir, ou que mon cercueil puisse devenir plus chouette que celui de Dracula.
I still love the taste of blood,
j'adore le goût du sang.
Donc vous n'avez pas peur d'être rattrapé par les conventions sociales? Être un monstre, c'est aussi ce qui vous permettait de rester à la marge, qui vous ne vous obligeait pas à jouer un rôle. Et vous racontez que sans les épreuves que vous avez traversées, Émile Ferris, scoliose, enfant, puis cette piqûre de moustique et ce virus que vous avez attrapé, qui vous a immobilisé, adulte, cloué dans une chaise roulante, sans ces épreuves, vous dites que vous n'auriez peut-être pas vu ressurgir toute cette férocité en vous, que ça vous a aussi forcé à choisir le camp de la vie et poussé à créer. Cette envie de créer reste intacte aujourd'hui?
I was just very moved by that clip from The Elephant Man.
Ce que vous, le clip qu'on vient d'entendre, l'extrait d'Elephant Man, ça m'a beaucoup ému.
I saw it and I identified very strongly with
ce
that.
Film, je l'ai vu.
Think it's unusual that
je
you
me
would have
suis
known that or that. I don't know
identifié
how you
à ce personnage. Je ne savais pas que vous le saviez.
Because as a child growing up, I was very
lorsque j'étais enfant,
I'm a little moved.
Excusez-moi, je suis un petit peu ému. J'avais donc la scoliose.
You know, used a lot like he was in front of doctors.
J'étais un objet d'étude.
A way of displaying
une espèce de bête de foire pour les médecins qui s'intéressaient aux enfants qui souffraient d'un handicap. Parfois, je me retrouvais nu avec des enfants de mon âge, nu devant une dizaine ou une quinzaine de médecins. Les médecins nous pointaient du doigt, nous qui avions un handicap, et je me souviens alors que j'étais différente. Mon handicap a fait de moi un monstre lorsque j'étais enfant, mais j'aime les monstres. Donc j'ai accepté cela. Donc, en effet, il y a toujours ce monstre en moi. Et en fait, c'est une chance parce que ça m'a sensibilisé dans mes relations avec les autres. Et ça, ça ne pourra jamais disparaître. J'ai cela en moi pour toujours. Alors, ce n'est pas facile. J'essaye de trouver un moyen d'aider les autres à accepter les différences qui font d'eux des monstres aux yeux des autres, quelles que soient ces différences.
Aujourd'hui, vous êtes notre lumière à nous, notre rayon de soleil à travers l'histoire de ce personnage, de cette petite héroïne qui s'appelle Karen, qui a 10 ans. Et Karen, on va partager son quotidien tout au long de ce grand roman graphique. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Le quotidien de Karen, loup-garou, traquée dans ses rêves par des villageois. Sa voisine, la belle Anka, va mourir d'une balle dans le cœur le jour de la Saint-Valentin et la police va parler d'un suicide, mais Karen n'y croit pas. Elle va enquêter, entourée de sa famille, sa mère très présente, Diz, son frère aussi, et remonter jusqu'à loin dans le passé. Ce que vous venez de nous dire et ce que nous dit aussi l'histoire de votre jeune héroïne Karen, c'est qu'en fait, on est surtout ce qu'on veut voir de soi avant d'être, ou en tout cas c'est plus important, avant d'être ce que les autres voient en vous. Vous, vous avez choisi de vous attribuer, de vous réapproprier cette figure du monstre que vous aviez le sentiment de voir dans le regard des autres.
C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Pour réussir dans la vie, je crois qu'il faut bien comprendre la part d'inconnu qu'il y a en nous. Alors le monstre, c'est effrayant. Nous avons peur du monstre, notamment si ce monstre, c'est nous. Nous sommes monstres dans nos échecs, dans nos appétits, dans nos désirs. Eh bien, nous sommes des monstres, tous autant que nous sommes.
Petite déjà, à l'âge où les filles rêvent d'être des princesses, vous, vous rêviez d'être un monstre. C'est-à-dire peut-être quelqu'un aussi qui fait peur, qui fait reculer les autres, et pas le contraire. Qu'est-ce qui vous attirait, ou quel refuge vous avez trouvé en vous entourant de ces créatures de l'ombre ?
Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Je renifle, excusez-moi, dit-elle. Alors non, tout était attirant. Rien n'était pas attirant. Le monstre, c'est formidablement attirant. Le monstre, c'est la révélation du pouvoir, de la férocité, de la beauté, de la nature sauvage, de l'existence. Il y a tout dans le monstre. Le monstre, pour moi, c'est l'élégance, c'est la beauté. Pour venir à ce studio, j'étais dans un taxi et j'ai vu des sculptures devant la maison de la radio, des dragons, des monstres. Et je me suis dit, les Français, ils comprennent ce que c'est que le monstre. Le monstre est omniprésent et c'était passionnant.
On a évoqué avec Elephant Man une part de cet imaginaire que le cinéma nous offre sur ses représentations. Il y a un autre film qui vous a marqué, Émile Ferris, c'est The Wolfman de George Wagner, ou Les métamorphoses nocturnes d'un jeune lord, qui a été réadapté depuis au cinéma par Joey Johnston. On va écouter un extrait de la version de 1941, celle que vous avez dû voir enfant.
Larry.
Gwen. Je suis bien content de vous voir. Je croyais partir avec Frank.
Oh, nous nous sommes querellés et je...
Venez, je vous raccompagne. On ferait mieux d'aller par là. La soirée était agitée.
Oui. Qu'est-ce que c'est ?
Oh, ça... C'est un talisman. J'ai croisé la vieille bohémienne. Ces gens vous feraient acheter n'importe quoi.
Laissez-moi voir. Il y a un pentacle au milieu.
Ouais. Elle a dit que j'étais un loup-garou.
Oh, mais c'est ridicule. Vous ne la croyez pas, enfin.
Gwen, j'en aurai pas d'utilité. Je veux que vous le gardiez. Il vous protégera.
Me protéger ? De qui ?
De moi. Juste au cas où.
Je n'ai jamais accepté un présent sans rien donner en contrepartie. Voici à Penny.
Ce n'est pas suffisant. Pourquoi tous les gitans sont où ?
Il faut aussi que je parte.
Mais Gwen ! Hé, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un loup-garou dans le camp !
Émile Ferriz, face au regard des médecins, qui était dur, vous l'évoquiez dans votre enfance, face au regard des enfants de votre âge, qui est toujours cruel dans la manière dont on peut regarder ses camarades, qu'est-ce qui vous a protégé ? Quel regard, quelles mains vous ont protégé quand vous étiez enfant ?
Il se trouve que j'ai grandi dans un quartier où il y avait plein de monstres. Des gens qui ne constituaient pas la majorité du point de vue ethnique ou du point de vue de leur orientation sexuelle. Et moi, je me suis très bien trouvé au sein de cette communauté. Moi, j'avais des petits carnets qu'ils lisaient, j'avais des récits que je partageais avec ces gens-là, des histoires d'horreur, des histoires de fantômes, et j'étais adopté par les gens du quartier. Et il y avait quelques enfants qui me regardaient d'une façon étrange ou hostile, mais il y a des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté, et ces gens-là sont restés des amis encore aujourd'hui. Ce qu'on vient d'entendre, là, c'était très intéressant. Parce que Wolfman, ce loup-garou, protège une partie de lui-même. Et il y a tant de bonté dans le monde et nous savons nous protéger les uns les autres. Et cette protection que nous pouvons accorder à l'autre, eh bien, va sauver l'autre. C'est cette bonté, cette gentillesse qui est salutaire dans notre société.
Dans le roman graphique que vous avez réalisé, Karen, la petite fille, l'héroïne de ce roman, a son frère, Diz, qui est aussi très présent et qui la protège. Qui avez-vous mis dans ce personnage de Diz ?
Oh, that's tricky, Olivia.
Ah, une question un peu fourbe, Olivia. Si je vous le disais, ça me poserait des problèmes.
Well, it's my father.
C'est mon père.
For me. But you know, here I am saying that, and
mais,
I don't.
En même temps, je vous dis ça, mais j'ai modifié la réalité parce que mon père était une personne très complexe et je ne voulais faire de tort à personne parce que je ne voulais pas parler de sa complexité. Donc, il y a des membres de ma famille pour qui la complexité de mon père n'était pas facile à vivre. Voilà.
Et le personnage de la mère, de Karen, est-ce qu'il ressemble à votre mère, à vous ? Est-ce qu'elle était aussi superstitieuse, aussi protectrice qu'est la mère de Karen dans le livre ?
À certains égards, oui. La plupart de mes personnages sont en partie des gens que je connaissais. D'une certaine façon, la mère de Karen, c'était ma grand-mère, qui a joué un rôle très important pour moi. Donc oui, une partie de ma mère dans la mère de Karen, oui.
Vous racontez que l'art a pris une place très importante dans votre vie. Il y a ce passage où Karen voit dans le rouge du sang de Anka que sa mère nettoie la palette de couleurs d'un tableau de Magritte. Vous alliez énormément au musée quand vous étiez plus petite. Vous avez continué, on imagine, à Chicago où vous vivez, à vous y rendre régulièrement. Quelle place a pris l'art dans votre vie ? Est-ce que cette place d'ailleurs a beaucoup évolué ? Est-ce que vous diriez que l'art a apporté de la couleur ou de la nuance dans votre vision du monde, Émile Ferriz ?
That's such a great question. Art
question formidable.
Is the clue
pour moi,
to magic.
L'art, c'est la clé de la magie.
Yeah, it's the clue. It's how you, it's the symbol,
c'est l'indice, c'est le symbole, c'est l'emblème du fait que la magie existe. C'est ça, l'art.
Vous continuez à beaucoup aller au musée. Vous avez toujours besoin aujourd'hui encore de vous nourrir de l'art des autres.
I do. And I was thinking about
oui.
how important it is to teach et that to children.
Je réfléchissais
to teach looking.
À cela et je me disais que c'est très important d'enseigner aux enfants à regarder. Et j'espère que je fais valoir cela dans mon livre. On retrouve ça dans ce roman graphique et ce thème est également présent dans le deuxième livre, apparaître. En tout cas, c'est très important que nos enfants aient en eux la capacité à vivre par et dans une image. Alors évidemment, les images vont et viennent, notamment avec les téléphones portables et ainsi de suite, mais il faut qu'un enfant sache regarder un tableau, par exemple, une image, et vraiment s'en imprégner. Il faut que l'enfant apprenne à faire cela. C'est important de savoir être dans le présent à côté d'un objet qui a été créé à la main. Parce qu'il y a une énergie qui a présidé à la création de cet objet. C'est une énergie invisible, mais qui est pourtant présente. Hein. Et je crois que si on est en présence de cela, et si on est être, on sait être en présence de cela, il y a là un don, un cadeau qui vous est donné. Et j'essaye en fait, dans mon travail, de séduire les jeunes par ces images. Autrement dit, vous avez une petite fille qui a fait un dessin avec un stylo à billes. Très bien. Maintenant, va voir ce que c'est, mais pour de vrai, le tableau que je te montre là. Va voir dans un musée ce que c'est, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner.
Karen, votre héroïne, dit, en regardant Franklin, le jeune garçon noir qui gravite autour d'elle et qui fait peur parce qu'il a un visage couvert de cicatrices. Il fait peur aux autres, il a ce quelque chose de Frankenstein dans le regard des autres. Après qu'elle l'ait sauvé d'un groupe qu'il l'ait sauvé d'un groupe de garçons, elle dit que si les morceaux de son visage tombaient, on découvrirait en lui une éclatante sphère de lumière. On ne verrait plus ses cicatrices extérieures, on verrait sa lumière et sa douceur intérieure. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas, Émile Ferris, à nous tous, apprendre à regarder les hommes qui nous entourent comme on regarde des tableaux, c'est-à-dire apprendre à regarder au-delà de la surface?
I don't think I could say that any better than you just said.
Ah ben, je ne peux pas le dire mieux que vous. Formidable, formidablement bien dit.
Yeah, absolutely.
Je suis ému aux larmes de vos propos. Olivia, c'est vous qui allez rédiger un chapitre dans mon prochain livre.
Oui, parce qu'il y en aura un prochain. Et à ce prochain livre, vous allez probablement, en tout cas, vous en rêvez, ajouter une playlist. Nous, on vous propose d'y mettre peut-être ce nouveau titre de James Blake, extrait de son nouvel album Assume Form. Vous allez voir, ça laisse songeur.
Agujerito del cielo, cuela en el brillo de Dios. call off the chase.
Vous voyez, Emile Ferry s'en parlait de remettre de la couleur dans nos vies. Son précédent album, sorti en 2016, s'appelait The Color in Anything. Le Britannique James Blake, qui revient avec ce nouvel album, Assume Form, qui est déjà dans les bacs. Il faudra attendre un peu le 29 mai au Festival des Nuits Sonores à Lyon, le 31 au Festival This Is Not a Love Song à Nîmes, et le 1er juin à Barcelone pour le festival Primavera Sound. France Culture, il est midi 22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
L'histoire de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres a lieu à Chicago en 1967. Chicago, où vous avez vécu une grande partie de votre vie, Emile Ferris. Karen, elle vit dans un sous-sol d'Uptown, un quartier chaud et pauvre de Chicago. On voit l'influence de Chicago sur votre dessin aussi. On le voyait déjà parce que la Grande Table a eu la chance d'aller à Chicago il y a un an et demi. On a pu rencontrer des artistes comme Kerry James Marshall ou Chris Ware, dessinateur de bande dessinée, qui sera aussi présent à Angoulême cette année. On a pu voir les liens très organiques des artistes avec cette ville. Qu'est-ce que produit Chicago sur vous? Comment cette ville vous a-t-elle influencé?
Ah, that's a big question and a big comment.
Question. J'ai écrit un poème en hommage de Chicago. J'écris des poèmes, poèmes d'amour. Ça s'est intitulé Ma mère, c'est Chicago en 1968. Dans ce poème, je parle de Chicago comme si c'était ma mère, parce que Chicago, c'est une ville qui est ma mère. C'est une ville qui est dure avec moi. Elle peut me faire du tort dans une allée si elle le souhaite. Elle n'est pas aussi belle que peuvent l'être certaines femmes. Chicago, c'est une femme qui n'a pas toutes ses dents. Mais néanmoins, elle a un grand sourire. Chicago n'a pas peur. C'est une sale garce. Elle est belle, dure, d'une grande bonté, d'une grande cruauté parfois.
Et
le problème de Chicago, c'est que Chicago ne sait pas apprécier ses propres artistes, même aujourd'hui. Et c'est un de ses échecs. Mais Chicago, c'est quand même un col bleu. Elle est polonaise, irlandaise, juive, noire. C'est une sale garce, très dure. Et si on sait survivre à Chicago, ben on devient soi-même très dur.
Et on imagine qu'elle a à la fois influencé votre imaginaire, mais aussi les traits de votre stylo bic avec lesquels vous dessinez. Je vous propose d'écouter à propos de plumes, de crayons qui se baladent sur les pages, puisqu'on vous compare souvent à des dessinateurs comme l'Américain Maurice Sendak, le père de Max et les Maxi Monstres, ou à celui au dessin de Crumb, les mots de Robert Crumb sur son inspiration.
Hi, I'm Robert Crumb.
Bonjour, je suis Robert Crumb. Laisse-moi réfléchir à mes principales influences. Enfant, j'étais influencé par les bandes dessinées américaines avec des animaux drôles, Donald Duck, Mickey Mouse, Super Souris. Puis, lorsque j'étais adolescent, vers 13 ou 14 ans, c'est le magazine Mad qui m'intéressait. Ces bandes dessinées étaient plus sophistiquées, satiriques, et puis le dessin était magnifique. Et j'étais très attiré par des artistes comme Wally Wood, Will Alter, Jack Davis. Et j'en suis devenu très obsédé. C'était tellement à l'écart de la culture grand public américaine et je me sentais tellement étranger aux gens pendant ma jeunesse que ça m'a énormément attiré. C'était aussi très différent de ce qu'on voyait dans les médias américains grand public à cette époque qu'étaient les années 50. Et puis j'ai commencé à dessiner Fritz le chat. Quand j'ai eu environ 15 ans, on avait un chat qui s'appelait Fritz à la maison. Au début, je dessinais pour divertir mes frères plus jeunes avec des histoires sur nos animaux domestiques. Et puis, d'une certaine façon, ça a évolué. J'ai continué à dessiner Fritz, et alors qu'il bougeait comme un vrai chat, il s'est humanisé au fil des années. Ça s'est mélangé avec les BD que je faisais à l'âge de 20 ans, et puis le personnage est devenu bien plus personnel. J'ai commencé à lui faire ressentir ma propre psyché.
Alors si certains voient entre les dessins de Crump et les vôtres, Émile Ferris, une familiarité, une ressemblance, est-ce que c'est parce qu'il y a des influences communes entre vous ?
Oh, absolutely. I mean, I love Mad Magazine.
Ah bah oui, Mad Magazine, j'adore. Et personnellement, j'aime beaucoup le dessin de Crumb. Son trait est entier. Il se jette à corps entier dans son travail. Et mon père m'a montré certaines choses de Crumb qui m'ont beaucoup influencé.
Anyone who
quiconque dessine avec une telle férocité à Goya, à Daumier, ou Bernie Wrightson, Will Eisner et d'autres, la liste est très très longue. Donc voilà, les artistes qui mettent tout dans leur dessin. Et tout ça, c'est une source d'inspiration et ça vous donne envie de dessiner. Vous savez que vous aimez quelque chose lorsque vous regardez cette chose et que ça vous donne envie de dessiner ou peindre ou autre chose.
Émile Ferris, il nous reste quelques secondes. Vous avez dit, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vois quel monstre il est. Alors, quel monstre je suis ?
Well, I'm going to be completely honest with you.
En toute honnêteté, Olivia.
I saw you.
Je vous ai vu.
When you came into this room,
quand vous êtes entrée dans le studio, je me suis dit, c'est une reine. Dans une vie précédente, vous deviez être reine.
It's true.
Mais je parle sérieusement. C'est vrai, hein.
Il faut gratter.
Mais.
I think you may have also been a vampire.
Peut-être vampire aussi.
Merci beaucoup à vous, Émile Ferris. Merci mille fois. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, votre roman graphique apparu chez Monsieur Toussaint L'Ouverture dans cette maison d'édition. Vous serez présente à Angoulême. On vous souhaite ce fauve d'or du festival d'Angoulême cette année. Vous serez aussi en signature demain soir à la librairie ici dans le deuxième à Paris et mardi prochain à 16h à BDNet à Bastille. Un grand merci à vous. Et merci à Xavier Combe pour sa traduction.